Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Interdiction au Sud Kivu de la commercialisation de la viande en provenance des pays voisins. Décision du gouvernement provincial. Se préparer à toute éventualité la propagation de la fièvre dite de la vallée du Rift qui frappe déjà le bétail au Burundi voisin. Le couple royal belge arrive ce dimanche à Bukavu, Sud Kivu, et déjà sur place, les acteurs du secteur éducatif de la ville de Bukavu plaident pour la réhabilitation de l'Athénée royal de Bukavu, actuellement Athénée d'Ibanda. Ce complexe scolaire a été construit par le roi des Belges pour les enfants des fonctionnaires de Bukavu. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est Patrick Mukendi. Il est directeur de la prison de Goma. Il nous parlera de la question de la gestion de la prison pour amener la paix en détention qui, d'après lui, passe par la bonne évaluation et la classification des détenus. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Sud Kivu, le gouvernement provincial a interdit la commercialisation de la viande en provenance des pays voisins. Cela après que le Burundi a déclaré officiellement ce bovin frappé par l'épidémie de la fièvre dite de la vallée du Rift. Il est à ce stade difficile de confirmer un premier cas de cette maladie au Sud Kivu, d'après le médecin vétérinaire Vincent Muigiroa Sangwa, chef de la division provinciale des pêches, agriculture et élevage. Cela n'empêche que les autorités provinciales prennent des mesures de prévention pour éviter une propagation de la maladie dans le Sud Kivu. Les propos du docteur Vincent Muigiroa Sangwa ont été recueillis à Bukavu par Cynthia Bachizi.
De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, on incrimine souvent des tiques, aussi même des moustiques, pour la transmission. C'est une maladie qui ne peut pas se transmettre entre homme et homme. Non. Entre homme et animal, animal et homme, oui. Et comme c'est une maladie causée par un virus, il n'y a pas de traitement. Il faut prévenir. Pour la région du Grand Lac, le premier cas qui a été signalé au Burundi. Et le gouvernement de la République burundaise a déjà fait une déclaration. Et nous avions pris de ça pour essayer de sensibiliser la population. Nous avons d'abord parlé des mesures que nous avions prises. L'interdiction d'entrée de viande qui vient des pays voisins. Puisqu'on ne sait pas dans quelles conditions ces animaux étaient abattus, nous avions proposé un arrêté à l'autorité où nous avons délimité des zones. La zone où on suspecte qu'il y a la maladie, nous avons appelé ça zone déjà atteinte ou zone de séquestration. Alors les restes de la province sont des zones de surveillance. Les vétérinaires doivent être alertés. Les éleveurs doivent aussi voir s'il y a un cas comme ça qui puisse contacter le service vétérinaire le plus proche.
Pendant ce temps, la maladie à monkeypox s'est signalée dans la province du Kwilu où un premier cas confirmé a été notifié au territoire de Massimanimba il y a de cela près d'un mois et 6 autres cas suspects dans d'autres territoires. C'est le ministre provincial de la Santé du Kwilu qui a livré cette information à Radio Okapi lors d'un entretien vendredi 10 juin dernier dans son cabinet de travail. Docteur Benamoutoui précise que les malades placés en isolement sont bien pris en charge et des cas contacts sont tous bien suivis. Et d'ajouter que les échantillons de ces cas suspects ont été envoyés à l'INRB à Kinshasa pour plus d'investigations. Il est au micro de Irène Mbouma.
La province a enregistré jusque-là 7 cas de monkeypox, donc un cas confirmé dans la zone de santé de Massimanimba et 6 cas suspects répartis de la manière suivante. La zone de santé de Gungu avec un cas suspect, Mwanza avec un cas suspect, Kikongo avec un cas suspect et Mokala avec 3 cas suspects. Les échantillons ont été prélevés et envoyés à l'INRB, nous attendons la suite. Mais les cas confirmés de la zone de santé de Massimanimba évoluent très bien. Les malades avaient été isolés, ils avaient été traités symptomatiquement, vous savez. Pour le monkeypox, jusque-là, il n'y a pas de vaccin. Donc, il va bien, les derniers coups sont en train d'être tombés. Même les cas contacts ont été suivis. Jusque-là, aucun cas contact n'a présenté les signes de la maladie. Donc, c'est une maladie éruptive qui se manifeste par des éruptions cutanées du type vésiculopapillaire qui vont finalement tomber au fur et à mesure que la maladie évolue. Il y a la fièvre qui accompagne ça. La maladie a commencé il y a de cela un mois passé qu'on avait détecté les premiers cas dans la zone de santé de Massimanimba et ça s'est éteint. Étant plutôt dans d'autres zones de santé.
Autre nouvelle, poursuite des combats entre les FRDC et les M23 à Rutshuru. Selon le porte-parole des opérations Sukola 2, les FRDC ont été surprises par 5 bombes tirées vendredi soir de la colline de Muabura au Rwanda. Ces bombes qui sont tombées respectivement dans la zone tampon de Katale à Birouma et à Moussezero ont causé la mort de 2 enfants et un autre a été grièvement blessé, a affirmé hier samedi matin à Radio Okapi le colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Celui-ci ajoute qu'une école a été complètement endommagée non loin de Bigega, près de Bounagana. Le FRDC affirme toutefois avoir mis hors d'état de nuire les assaillants. De son côté, le M23 accuse l'armée régulière d'être à la base de la mort de ses 2 enfants car ayant positionné ses canons en pleine cité de Bounagana, selon un communiqué des rebelles rendu public vendredi soir. Pour leur part, les forces de la défense rwandaise RDF en sigle indiquent que dans un document rendu public le même vendredi, que les FRDC ont tiré 2 roquettes à partir de Bounagana et qui sont tombées dans la cellule de Nyabigoma dans le secteur de Kinigi, district de Musanze au Rwanda à la frontière avec la RDC. Dans ce même communiqué, les RDF indiquent que cet incident ainsi que l'enlèvement par les FRDC de 2 soldats rwandais en patrouille à la frontière ont été rapportés au gouvernement congolais, au mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL ainsi qu'à d'autres parties. Autre nouvelle, au Sud Kivu, remise officielle vendredi dernier dans la ville d'Uvira, des bâtiments réhabilités et construits à l'état-major commandement du secteur opérationnel Sukola 2 au sud du Sud Kivu. La MONUSCO a financé les travaux de ces infrastructures à hauteur de près de 50 000 dollars américains. La cérémonie officielle s'est déroulée sur place à l'état-major des FRDC à Uvira en présence du chef du sous-bureau de la MONUSCO Uvira, Kassim Bamba, du maire de la ville d'Uvira, Kiza Muato, et du commandant des FRDC du secteur opérationnel Sukola 2 Sud du Sud Kivu, le général de brigade Ramazani Fundi.
De l'extérieur, on peut percevoir une clôture en maçonnerie construite avec des treillages métalliques au-dessus. À l'intérieur de cette clôture s'impose un nouveau bâtiment construit avec 3 pièces, à côté de l'ancienne bâtisse entièrement réhabilitée. Les carreaux sont bien posés sur les escaliers, les bureaux du commandement sont équipés et dotés d'une connexion Internet Wi-Fi. 3 baraques sont aménagées sur tous les coins de la clôture pour abriter les militaires des gardes. Des travaux qui ont été salués par les personnalités civiles, policières et militaires. Les porte-parole des FRDC à Uvira, lieutenant Marc Elongo.
Ça va d'abord nous faciliter à ce que les officiers d'état-major travaillent dans des cadres qui sont sereins, dans un milieu assaini où ils peuvent travailler. Nous remercions quand même nos partenaires de la MONUSCO parce qu'avec cette œuvre, nous pourrons mieux mener et planifier nos opérations dans les cadres normaux.
Le maire de la ville s'est fait accompagner par le chef de la MONUSCO avant la remise officielle à l'armée, Kiza Muato.
Nous savons très bien qu'ils vont gérer ces bâtiments en beaux parents de famille, puisque vous voyez déjà, c'est devenu un bijou. Même le conseil de sécurité prochain, nous allons les tenir ici au secteur.
Ces travaux de réhabilitation pourraient être relancés dans leur 2e phase et orientés vers la construction des toilettes pour les militaires des rangs. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Assemblée nationale a déclaré recevable vendredi le projet de loi portant répression de la traite des personnes présenté et défendu par le ministre des Droits Humains. Ce projet de loi vient remplacer les décrets portant prévention et répression de la traite des personnes vieux de 82 ans. Pour le ministre des Droits Humains, cette loi spécifique va aider l'État à mieux protéger les groupes vulnérables contre les réseaux des trafiquants d'êtres humains en application de l'article 16 de la Constitution qui fait à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Albert Fabrice Puella est au micro de Michel Kifinangoy.
Le code pénal congolais mérite d'être revisité, tout simplement parce que les aspects sur la traite des personnes ne sont pas prévus dans ce code pénal. C'est important qu'en plein 21e siècle, au moment où on assiste à des pratiques inqualifiables, l'exploitation sexuelle des enfants, les enfants qui sont recrutés dans des forces armées, ces pratiques existaient, c'est vrai, mais on ne pouvait pas les sanctionner parce qu'il y avait un silence dans la loi. Aujourd'hui, avec cette loi, c'est un pas important dans le cadre des droits humains et même la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement en République démocratique du Congo, il y a un vrai souci pour aller faire des respects des droits humains une vraie préoccupation. Nous avons amené, il nous revient de faire exécuter ces différentes lois et je pense qu'au niveau du gouvernement, nous allons nous employer pour que cette loi, une fois promulguée, n'aille pas remplir les tiroirs mais fasse objet d'application effective.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, direction le Sud Kivu. Le couple royal belge est attendu ce dimanche 12 juin à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. En perspective de cette arrivée, le maire de la ville de Bukavu appelle les usagers des routes de la ville à observer et respecter les consignes de la police nationale congolaise pour faciliter les passages du couple royal et toute sa délégation sur son itinéraire allant de l'aéroport de Kavumu jusqu'à l'hôpital de Panzi, et ce à aller comme au retour. Le reste des routes ne sont pas concernées par cette mesure. On écoute le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi, au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Il ne s'agit pas de nouvelles mesures. Il s'agit de l'assouplissement des mesures que nous avons prises compte tenu du contexte social, contexte politique et économique et même culturel. L'autorité provinciale, son excellence Théon Wadi Djekassi, gouverneur de province, nous a instruit d'assouplir la mesure qui était très rigide d'interdiction de circulation. Alors il nous a demandé de porter à la connaissance de la population que la circulation sera normale. Toutefois, les policiers seront postés à toutes les entrées dans des coins stratégiques pour donner des consignes à la population. Alors il est demandé à la population d'observer et de respecter les consignes de la police. La circulation sera normale, mais la police aura des consignes qu'elle va communiquer à la population. Alors il est question de rester à l'écoute de la police qui va réguler la circulation.
On reste dans la région. Les acteurs du secteur éducatif de la ville de Bukavu plaident alors pour la réhabilitation de l'Athénée royale de Bukavu, actuellement Athénée d'Ibanda, un complexe scolaire de renommée construit par le roi des Belges quelques années avant l'indépendance pour les enfants des fonctionnaires de l'État de la ville de Bukavu. Ladis Muganzawa Kandwa, ancien provède et ancien ministre provincial de l'éducation, s'exprime à l'occasion de la visite du couple royal belge à Bukavu ce dimanche 12 juin. Il est au micro de Emmanuel Elamejou Akabedi.
Nous avions ici un bijou, l'Athénée royale. C'était destiné aux enfants des évolués. C'est le plus grand Athénée au sud du Sahara, la plus grande école officielle au sud du Sahara. Aujourd'hui, délaissé, abandonné. J'aurais bien souhaité que le roi Philippe visite l'Athénée royale. C'est devenu une poubelle. Les toilettes sont bouchées. Les classes sont sans pupitre. Il n'y a plus d'élèves à l'Athénée. Une bonne partie de l'Athénée est vide. Les élèves sont partis dans les écoles primaires des privés, qui font que l'Athénée est presque vide aujourd'hui. Voilà donc à Sa Majesté le roi qui arrive, qui lui plaise d'aller jeter un coup d'œil dans cette école qui a été construite par le fonds du roi pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Et je dois vous dire que les meilleures écoles, ce sont ces écoles de prestige nous laissé par l'administration coloniale belge. L'Athénée royale ici de Bukavu, construite entre les années 45 à 50, si la coopération belgo-congolaise doit revenir, il y a encore à faire pour aider ce pays qui a été saigné à blanc par ses leaders.
Autre nouvelle, l'artiste et comédien congolais Magui Kalomba Mbuyi a présenté en grande première kinoise vendredi dans la nouvelle salle de spectacle du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sa nouvelle création intitulée Bongolatrice. Cette pièce s'inspire du recueil de nouvelles du professeur André Yuka qui porte le même titre dans une mise en scène de la Suisse Iria Diaz. En plus de la production théâtrale, il y a eu également la présentation et vente de l'ouvrage Bongolatrice du professeur André Yuka. Sachez que ce spectacle a été déjà présenté au cours de cette année en Suisse. Bongolatrice est une pièce qui peint le portrait d'une femme congolaise actrice de son développement, comme l'explique la comédienne Magui Kalomba Mbuyi, directrice de la compagnie Mapendo Théâtre, au micro de Jean-Marc Matwaki.
Moi, j'aime tout ce qui parle à la femme en tant que femme. Je m'intéresse beaucoup à la question de la femme, je m'intéresse beaucoup aux problèmes de la femme. C'est vrai que toutes les histoires tournent autour de la femme. Bon, directement et indirectement. C'est vrai qu'il y a d'autres histoires où on a comme héros l'homme, mais vous allez trouver que dans cette histoire-là, on touche un peu la femme. Parce que aujourd'hui, on considère la femme comme étant un être fort, un être résilient, un être qui est au centre de tout, quoi. Aujourd'hui, le développement du pays, ça passe par la femme, hein. Par la femme. Du coup, c'est aussi une ode à la femme, c'est aussi un moyen de rendre visible la cause de cette femme-là, un moyen de rendre hommage à cette femme-là. Parce que la femme, elle n'est pas toujours victime. Cette femme dont moi je parle, c'est pas la femme victime, c'est la femme forte.
Qui est actrice.
Qui est actrice, qui est, voilà, actrice du développement.
Actualité internationale.
Dans la nuit de vendredi 10 Kinshasa, samedi 11 juin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta du Mali, a signé un décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de cette commission qu'il va nommer vont travailler sous son autorité pour présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali dans le cadre de la refondation. L'équipe de rédaction et de la nouvelle constitution qui va être formée par le colonel Goïta comprend notamment un président, deux rapporteurs et des experts. Dans le cadre de son travail, elle pourra consulter l'ensemble des forces vives de la nation, dont les partis politiques et la société civile, les groupes armés signataires de l'accord pour la paix dans le nord du Mali, les syndicats, les organisations religieuses, ainsi que les autorités traditionnelles pourront également apporter leur contribution, précise le décret présidentiel déjà publié au journal officiel. Et puis à Tripoli, la capitale libyenne, des affrontements entre groupes armés dans la nuit de vendredi à hier samedi ont provoqué des scènes de panique. Bilan, un combattant tué et d'importants dégâts matériels.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Patrick Mukendi. Il est directeur de la prison de Goma. La MONUSCO, à travers sa section Correction Unie, renforce les capacités opérationnelles du personnel pénitentiaire de l'Est du pays. C'est au cours d'une formation de 3 jours qui a débuté ce mardi 7 juin. Alors, Patrick Mukendi nous parle de la question de la gestion de la prison pour amener la paix en détention qui, d'après lui, passe par la bonne évaluation et la classification des détenus. Il s'entretient ici avec Cynthia Bachizi. Suivez.
Patrick Mukendi, bonjour.
Oui, bonjour madame.
L'analyse du système pénitentiaire congolais relève que la répartition des détenus dans les prisons ou quartiers s'effectue selon la disponibilité des places, ce qui est déplorable.
Merci beaucoup madame pour la question. Et c'est vrai que cette situation paraît un peu beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée au regard des établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo qui ne permettent pas que réellement cette classification soit effective. Et cela est dû au regard des établissements pénitentiaires. La plupart sont construits depuis l'époque belge, qui nécessitent que ces établissements soient renouvelés, reconstruits, pour nous permettre à ce que cette classification soit réellement effective dans nos établissements.
Alors aujourd'hui, le fait que tous les détenus soient mis ensemble, a quelles conséquences?
Oui, les conséquences sont multiples. Il y a la contingence de la criminalité. Des fois, nous constatons les détenus qui sont venus à la prison moins dangereux, mais parce qu'ils sont ensemble avec les détenus qui sont dangereux, comprenez vous-même. Et les conséquences sont vraiment beaucoup plus multiples. En dehors de ça, lorsque nous devons mettre les détenus ensemble, ça a des conséquences. Je dirais les conséquences sont vraiment beaucoup plus nombreuses. C'est pourquoi nous sommes en train de suivre cette formation. Et cette formation nous permettra de bien faire aussi, pas seulement la formation, mais comme nous l'avions dit tantôt, il nous faut aussi des établissements qui nous permettront de réaliser tout ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui.
Quelles sont aujourd'hui les différentes techniques et méthodes d'évaluation et de classification des détenus?
Les méthodes, nous devons aller par la séparation des détenus et séparer les hommes et les femmes, les adultes, les mineurs, les condamnés et les prévenus. Comme vous le savez, les établissements pénitentiaires congolais tous sont au même moment, mais là on mélange les détenus condamnés et prévenus. Mais cette classification doit avoir lieu. Il faut qu'on arrive à séparer et les détenus condamnés, des détenus et des prévenus. Et nous devons avoir des maisons d'arrêt type, et nous devons aussi avoir des établissements qui reçoivent uniquement les condamnés. C'est pourquoi, et comme nous l'avons dit, il nous faut des établissements pour arriver à ça.
Donc aujourd'hui, dans les prisons, les grands délinquants sont ensemble avec les petits délinquants. C'est quand même un grand danger, non?
Malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui dans nos établissements pénitentiaires. Et je sais que l'État congolais est en train de fournir des efforts pour que cette situation soit corrigée avec le temps.
Aujourd'hui, on parle d'une réforme du système pénitentiaire congolais. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette réforme?
Oui, la réforme doit nous amener à beaucoup de choses, va apporter beaucoup de solutions à tous les problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, nous allons rénover les textes de l'administration pénitentiaire. Il faut aussi une direction générale qui sera en charge uniquement de l'administration pénitentiaire, les statuts aussi du personnel pénitentiaire. Tout ça, lorsque tous ceux-ci seront mis ensemble, ça va nous aider, ça va booster encore l'administration pénitentiaire qui va commencer à répondre aux normes, aux questions qui sont toujours posées aujourd'hui par la société.
Au-delà de problèmes de classification des détenus, quel est aujourd'hui le plus grand défi dans la gestion quotidienne d'un établissement pénitentiaire?
Le plus grand problème que nous connaissons, c'est la surpopulation de nos établissements. Et le nombre est devenu très croissant. Les conséquences sont très nombreuses. Il y a les maladies, la malnutrition, il y a aussi beaucoup de choses qui sont causées par cette surpopulation.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, gérer une prison congolaise, c'est un stress permanent?
Bon, je ne saurais pas dire ça vraiment, mais nous sommes en train de demander seulement aux autorités qui ont la gestion des établissements pénitentiaires de pouvoir bien nous aider à bien gérer ces établissements.
Je vous remercie.
Merci, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.